Nous allons prendre des histoires assez connues dans la parole de Dieu. Une histoire sur Abraham, une autre sur un enseignement de Jésus. Et certainement sur un enseignement de Paul. Mais avant, je voulais simplement partager avec vous une curieuse émission que j'ai vue à la télévision avec Macha. Un soir, assez tard, sur Arte, sur les requins des grands fonds. Dans les mers du Japon. Et c'est des requins qui, d'après les scientifiques, n'auraient pas évolué tellement ils vivent au fond des océans, qui sont énormes et terrifiants. Macha a été terrifié par l'un d'entre eux qui ressemblait un petit peu à un pet shop avec des grands yeux, mais qui se révulsait. Et un pet shop aussi effrayant, ça l'effrayait elle. Moi, ce que le requin qui m'a complètement fasciné était un requin avec un grand rostre sur lequel il y a des capteurs et puis il navigue dans le noir des océans puisqu'il n'y a plus tout de soleil à ce niveau-là. Et pour capturer ses proies, donc il a ses capteurs en dessous de ce rostre et curieusement une toute petite bouche. Et je me dis, mais comment fait-il ? Et les scientifiques se demandaient, comment fait-il pour pouvoir attraper ses proies, tellement sa bouche était petite ? Et là, les cinéastes ont réussi à le filmer en train de capturer une proie. Et là, c'est le spectacle effrayant. La mâchoire se déboîte complètement, rejoint le rostre, elle est aussi grande que longue que le rostre, et il va attraper le mollusque que ses capteurs avaient détecté en dessous. Et là, à chaque fois que je vois ce genre de choses, je me dis, mais notre Dieu est un Dieu d'une originalité incroyable. Il est capable de faire ces choses-là, d'inventer, de créer des êtres qui sont... Aucun cinéaste, même dans Alien, n'a pu... inventer ce type de monstre sous la mer. Et c'est notre Dieu, ça fait partie de ses attributs. D'être capable de créer ce genre de créature avec cette mâchoire qui se déboîte pour pouvoir attraper ses proies. Et heureusement que nous avons, nous les chrétiens, découvert l'amour de Dieu. Lui qui crée tout ça, lui qui crée ces choses fantastiques, il nous a envoyé une parole qui est extraordinaire, une parole d'amour qui est extraordinaire. Voyez ce que je suis capable de faire, mais je suis un Dieu d'amour. Alors nous ne comprenons pas tout. Et ce Dieu d'amour a cherché à communiquer avec nous, et la manière la plus ultime dont il a communiqué, c'est évidemment en nous envoyant son Fils. Mais nous allons nous plonger dans le livre de la Genèse, dans un premier temps, au chapitre 18. Et lire cette histoire que vous connaissez bien. Mais c'est toujours utile de la relire. C'est juste après la confirmation de la naissance d'Isaac. Vous vous rappelez, il y a trois personnages qui viennent annoncer à Abraham et Sarah, qui sont très âgés, qui ont 100 ans. Et on annonce à Sarah qu'elle va avoir un fils. Et là, Sarah se met à rire. D'ailleurs, Isaac voudra dire le rire. Et puis, l'histoire qui nous intéresse, c'est que ces trois hommes, dont on dit que l'un d'entre eux est probablement une théophanie, c'est-à-dire l'apparition de Dieu à ce moment-là déjà sur Terre. Et j'aime à penser que c'était déjà Jésus qui, dans son incarnation, vient au milieu de ces trois hommes. C'était celui qui avait le plus de prestance et c'est lui qui annonce à Sarah et à Abraham la naissance d'Isaac. Mais cet homme, en tout cas, disparaît. Il n'y a plus que deux anges qui sont encore là. Et ces deux hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Alors c'est intéressant parce que c'est Dieu qui parle là. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qui lui sont faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les supprimeras-tu aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit. Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5 détruiras-tu toute la ville ? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham continua de parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, mais je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Cette histoire, elle est extraordinaire. On dit que c'est l'histoire la plus ancienne et la plus originale sur déjà cette relation de Dieu avec sa créature. Abraham est devant le Dieu de l'univers, devant le maître du monde, devant celui qui a tout créé, y compris ce requin fantastique dont je vous parlais juste avant. Et il commence à discuter avec Dieu. Et Dieu, dans ce qui est relaté là, ne s'offense jamais, n'est pas du tout excédé par l'attitude d'Abraham. Mais à chaque fois, il y répond gentiment. Et Abraham insiste et insiste et insiste. Il a conscience qu'il parle devant le maître du monde, mais peut-être n'a-t-il pas conscience, parce que s'il le voyait vraiment, il serait effrayé et tomberait certainement à genoux. Mais cette relation d'Abraham avec Dieu est extraordinaire. Et elle nous invite à lui ressembler, à avoir ce type de relation. Et certainement que Dieu, dans son amour, écoutant Abraham, se dit « Abraham aime la justice, mais il a oublié que j'étais juste. » Et donc il commence à négocier avec lui, pour que cette ville ne soit pas détruite. Cette ville, évidemment, sera détruite, tellement la corruption est importante. Et vous pourrez lire au chapitre 19 pour vous-même la raison pour laquelle cette ville a été détruite finalement. Mais cette relation d'Abraham avec Dieu est bonne. Et nous devrions être un peu comme lui, ou tout à fait comme lui. C'est-à-dire entrer dans ce dialogue permanent avec Dieu, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour tous les hommes, parce qu'il désire que tout homme soit sauvé, d'après l'épître à Timothée au chapitre 2, verset 4. Dieu désire que tout homme soit sauvé. Il sait qu'Abraham va être le père d'une grande nation et que c'est à travers lui que finalement toutes les nations de la terre seront bénies. Que tous les païens seront bénis. Que les habitants de Sodome et Gomorre pourraient être bénis aussi, et Abraham le sait. C'est sa destinée. Et il fait une plaidoirie pour ces hommes. Malgré leurs péchés, il demande à Dieu de voir s'il y a éventuellement quelques justes dans cette ville avant de la détruire. Et c'est d'un autre dialogue avec Dieu qui est aussi très connu. C'est dans Luc chapitre 11. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples, il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le retrouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi trois pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Les disciples voient donc Jésus en train de prier dans un endroit, un certain endroit, dit la Bible, et ils se demandent, mais quel type de prière est-ce que Jésus adresse à son Seigneur ? Quel type de prière est-ce que le Fils de Dieu a envers son Père? Et le Seigneur enseigne cette prière. Et cette prière est directement tirée de toute la tradition juive. D'ailleurs, c'est une prière que nous pourrions lire et dire, en tout cas, avec les Juifs. Et je vais reprendre toute cette prière avec les citations à la fois dans l'Ancien Testament, à la fois dans des traditions qui sont aussi anciennes que Jésus. Sans vous les citer nécessairement, vous les oublieriez aussi rapidement que je vous l'ai dit. Mais voici ces prières, cette prière. « Notre Père qui est dans les cieux, que soit sanctifié ton nom très haut dans le monde que tu as créé selon ta volonté. » Que vienne bientôt et que soit reconnu du monde entier ton règne et ta seigneurie afin que soit loué ton nom pour l'éternité. Que soit faite ta volonté dans le ciel et sur la terre, donne tranquillité de l'esprit à ceux qui te craignent et pour le reste, agis selon ton bon plaisir. Fais-nous jouir du pain que tu nous accordes chaque jour. Remets notre Père Remets-nous, notre Père, nos péchés, comme nous les remettons à ceux qui nous ont fait souffrir. Ne nous induis pas en tentation, car la grandeur et la gloire, la victoire et la majesté sont tiennes, ainsi que toutes les choses au ciel et sur la terre. À toi est le règne, et tu es le Seigneur de tout être vivant dans tous les siècles. Et là, on voit que Jésus est il est évidemment le Fils de Dieu, mais il doit impressionner ses disciples, et il doit fortement impressionner son entourage, telle sa connaissance est immense. Telle sa connaissance de l'Ancien Testament est immense. Il la connaît par cœur. Et dans sa prière, simplement, les disciples lui posent la question et lui va puiser chaque phrase dans la parole de Dieu qui demeure éternellement. Il s'enracine dans cette tradition qui est la sienne et par laquelle le salut vient dans le monde. Alors à la fin, ce que ne cite pas l'évangile de Luc, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, c'est une prière qui a été reprise, qui est citée dans certains évangiles de Matthieu, pas dans tous. Donc on sait qu'elle est là, elle apparaît dans certains textes, et là ce qu'on vous étudie un petit peu les origines du Nouveau Testament, les sélections qui ont pu être faites avec l'aide de l'Esprit-Saint. Eh bien, il y a certains textes où ça apparaît, d'autres textes où ça n'apparaît pas. C'est en tout cas un texte qui était aussi dans l'Ancien Testament, et nous l'avons lu, c'était à la mort de David. « Car la grandeur et la gloire, la victoire et la majesté sont tiennes, ainsi que toutes les choses au ciel et sur la terre. À toi est le règne, et tu es le Seigneur de tout être vivant dans tous les siècles. » Que vienne bientôt et que soit reconnu du monde entier ton règne et ta seigneurie afin que soit loué ton nom pour l'éternité. Le règne de Dieu, que ton règne vienne. Lorsque j'ai perdu ma fille en 2009, je n'arrivais plus à prier du tout. Et la seule prière que je pouvais dire, c'est la prière que le Christ nous a enseignée. Et encore, je m'arrêtais à « Que ton règne vienne ». Tellement j'étais pressé à ce que le règne de Dieu finalement arrive. Il est là maintenant. Il est là maintenant. Et cette prière est là. « Que ton règne vienne », ça veut dire aussi que nous puissions vivre ton règne pleinement maintenant sur la terre, tout de suite. Que nous soyons branchés sur le Seigneur comme Abraham était branché sur Dieu en permanence. Et le règne est déjà là. Mais nous savons aussi que Jésus revient. Et que ton règne vienne, ça veut dire aussi que tu viennes. Que tu viennes, qu'on puisse te voir, qu'on puisse te contempler, qu'on puisse enfin avoir ce monde que tu as promis où il n'y aura plus les choses que nous vivons maintenant, qui sont absolument horribles, partout dans le monde. Il y a des choses dont on n'entend pas actuellement dans le monde, tout ce qui se passe en Afrique. Au Burundi, où les gens sont y a pas d'implication politique. Et quelque part, peut-être que l'homme blanc n'est pas là, donc ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Et c'est terrible. Les gens sont massacrés. Alors on entend des choses, et puis là, le monde entier entend qu'il y a un fou furieux qui a encore abattu des gens à Munich. C'est pas le règne de Dieu. Notre monde explose. En ce moment, on est dans une précarité constante. Et c'est vrai que ton règne vienne, qu'enfin nous puissions vivre en paix sur cette terre. Mais en même temps, nous qui vivons dans l'adversité et qui pourrions être victimes aussi de quelque chose de ce genre, nous avons à être des êtres vivants, des êtres qui heureux d'être transformés, heureux d'être dans la vraie vie, heureux d'être ressuscité. Et je terminerai avec le dernier texte qui est dans l'Épître aux Colossiens. Au chapitre 2. C'était tout un chapitre passionnant. Au verset 12 à 14. Vous avez été, en effet, enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité avec lui, en lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte de rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ce texte, comme dans l'Épître aux Éphésiens, parle au passé. Dans l'Épître aux Romains, il parle plutôt à l'avenir, en parlant des promesses. Là, Colossiens et Éphésiens parlent au passé. Ça veut dire que nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes, chacun et chacune ici, qui nous sommes donnés à Jésus, des hommes et des femmes ressuscités. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Nous sommes déjà dans cette capacité de rentrer en relation avec Dieu, comme le faisait Abraham, comme l'a fait Jésus, et nous devons en être persuadés. Et pour revenir simplement à cette histoire d'Abraham et de Dieu, c'est le désir de Dieu que nous rentrions dans ce type de relation. C'est le désir de Dieu que nous puissions lui demander plein de choses, comme des enfants. C'est le désir de Dieu que nous puissions avoir ce type d'intimité avec le maître du monde. Et Jésus nous l'a prouvé. Et Jésus va dans le sens, évidemment, de l'intuition d'Abraham, en disant « Notre Père ». Et Marc aime bien nous rappeler que le Père, c'est Papa. Abba, ça veut dire Papa. Quand vous êtes quelqu'un, il me disait qu'il était en Israël, et puis il y avait un petit garçon qui était dans l'eau, et il était en difficulté, ce petit garçon a dit « Abba, Abba, Papa, Papa, viens me chercher ». Et c'est le terme qui est utilisé dans le Testament. C'est vraiment cette intimité-là que Dieu a avec nous. Alors c'est vrai que dans les prières de Jésus, notre Père, c'est quelque chose de pluriel. C'est toute la communauté qui prie le Père, qui prie Dieu, qui prie leur Papa. Et ce Dieu qui est à l'origine de cette fabrication de ce requin épouvantable, c'est ce Dieu-là aussi qui désire cette intimité avec nous, qui désire que nous lui parlions, que nous confessions à lui nos erreurs, nos fautes. J'ai encore trébuché. Et Dieu le sait. On l'a chanté dans ce chant que nous allons trébucher. Il le sait même d'avance. Mais il ne veut surtout pas que nous restions par terre. Il veut que nous nous relevions. Il veut simplement que nous confessions. Je sais, Pierre, je savais que tu allais me trahir, que tu allais me renier trois fois. Je le savais. À l'avance, c'est pas pour autant que je ne t'aime pas. Je sais que tu vas me décevoir, mais c'est pas pour autant que je ne t'aime pas. Et c'est ce type de relation que nous devons y avoir les uns avec les autres. Nous allons tous nous décevoir les uns les autres à un moment donné. Une parole de travers, quelque chose qui blesse. Mais c'est pas pour autant que nous ne devons pas nous aimer. Et nous devons savoir d'avance. Et avoir cette confiance que nous sommes tous en train d'essayer de marcher avec notre Dieu et d'essayer d'avoir cette relation. Et nous luttons les uns et les autres avec des choses complètement différentes. Il va y avoir un péché avec lequel je lutte, avec lequel, pour Pierre, ce sera une évidence que lui ne fera jamais ça. Et pour moi, c'est difficile. Et pour Pierre, ce sera peut-être quelque chose d'autre, qui pour moi serait facile. Et c'est comme ça que nous avançons aussi dans l'Église. Des gens qui luttent avec l'alcool. Pour ceux qui ne sont pas dedans, ça paraît facile. Mais pour ceux qui luttent avec ça, c'est compliqué. Et à nous, avoir cette parole aussi et cette attitude d'accueil. Mais voilà, c'est son péché, c'est sa difficulté, c'est sa lutte. Mais je t'écoute. Je t'écoute et je suis prêt à t'aider. Plutôt que de porter un jugement sur lui ou sur elle. Nous sommes ressuscités. Nous sommes déjà dans le règne de Dieu. Et nous attendons avec impatience son règne futur. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à développer cette relation avec notre Père, avec notre Papa, comme Abraham l'a fait. Que nous soyons comme des enfants, fascinés par leur Papa, et que nous puissions communiquer avec lui, comme le Christ nous l'a enseigné. Amen.